VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 25 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, saisi d'un nombre important d'armes aux portes de Niamey, la capitale, dans un bus en provenance du Mali.
La Banque mondiale accorde une aide d'urgence de 300 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo.
Au Soudan, arrestation d'un général et de plusieurs membres du renseignement après un coup d'État déjoué le 11 juillet, selon les militaires au pouvoir.
Ici à Washington, l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 n'a pas disculpé le président Donald Trump des soupçons d'entrave à la justice, a dit hier devant le Congrès l'ex-procureur spécial Robert Mueller.
La Corée du Nord a procédé à des tirs de deux missiles de courte portée, annonce Séoul.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Niger, importante saisie d'armes à feu ce mercredi à l'entrée de Niamey, la capitale. Une dizaine de kalachnikovs et des pistolets automatiques, ainsi que leurs chargeurs, ont été retrouvés sur un individu dans un bus en provenance du Mali. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon des sources de VOA Afrique, c'est aux environs de 16h30 temps universel ce mercredi 24 juillet 2019 que la saisie est opérée sur un individu de nationalité nigériane au poste de contrôle de Bangoula à l'entrée ouest de Niamey. 11 kalachnikovs et 7 pistolets automatiques, chacun avec son chargeur et un fusil mitrailleur dissimulés dans des sacs de maïs transportés par un bus en provenance de Gao au Mali. Le bus est alors escorté au commissariat du 1er arrondissement communale de la ville de Niamey, l'individu mis aux arrêts et une enquête ouverte. C'est une des importantes saisies d'armes ainsi opérées à Niamey, mais beaucoup de citoyens se posent la question sur les conditions dans lesquelles le bus a pu traverser deux départements de la région de Tillabéri qui sont tous sous état d'urgence depuis 2018 du fait de la situation sécuritaire. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Banque mondiale a annoncé hier l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 300 millions de dollars dans le cadre de la lutte mondiale contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Ensemble, nous devons prendre des mesures d'urgence pour mettre fin à l'épidémie mortelle d'Ebola qui détruit des vies et les moyens de subsistance, a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, citée dans le communiqué. L'Organisation mondiale de la santé a élevé l'épidémie actuelle au rang d'urgence de santé publique de portée internationale.
Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, a promis hier une victoire imminente de ses forces engagées dans une offensive lancée il y a plus de 3 mois pour conquérir Tripoli. Lundi, les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, le GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, ont indiqué avoir repoussé une grande offensive des forces pro-Haftar au sud de la capitale, faisant état de combats meurtriers. De leur côté, les forces pro-Haftar ont, elles, annoncé avoir progressé sur les fronts de combat au sud de Tripoli.
Les militaires au pouvoir au Soudan ont annoncé hier avoir arrêté en général plusieurs membres du Service national de renseignement et de sécurité, ainsi que des dirigeants politiques pour avoir fomenté un coup d'État déjoué le 11 juillet. Ekia Badou.
Le 11 juillet, une tentative de coup d'État a été déjouée au Soudan, a annoncé le jour même le Conseil militaire. Cette instance au pouvoir après un coup d'État le 11 avril ayant mené à la chute d'Omar el-Béchir avait alors précisé que 12 officiers, dont 5 à la retraite, avaient été arrêtés. Mercredi, les militaires ont indiqué que les détenus seront interrogés et présentés devant la justice pour avoir aidé le retour au pouvoir de l'ancien régime du parti du Congrès national, selon le communiqué cité par Souna. Nouvellement nommé chef d'état-major des armées, le général Mohamed Othman Al-Hussein a confirmé ses arrestations lors d'une allocution à la télévision d'État. L'échec du coup d'État le 11 juillet était intervenu alors qu'une rencontre entre des représentants du Conseil militaire et des meneurs de la contestation se tenait à Khartoum pour finaliser les termes d'un accord sur la transition. Le 17 juillet, une déclaration politique a été conclue entre les deux camps, entérinant le principe d'un partage du pouvoir pendant la future période de transition.
En Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées et 6 autres blessées hier dans un attentat perpétré par des militants islamistes Shebab contre les locaux de la mairie de Mogadiscio, la capitale. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
2 adjoints du maire et 3 directeurs de service ont perdu la vie dans l'attaque. 6 autres personnes ont été blessées, dont le maire de Mogadiscio. Ils sont tous en soins intensifs, selon le ministre de l'Information, Mohamed Abdiyarir Marayé. Selon une source sécuritaire, un kamikaze serait entré dans le bâtiment où avait lieu une réunion et se serait fait exploser. Les forces de sécurité enquêtent sur ce qui s'est passé et fourniront des détails plus tard, a indiqué le ministre de l'Information. L'attaque a été revendiquée par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Selon leur porte-parole, Abdulaziz Abdou Moussab, ils visaient James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, qui rendait visite mercredi au maire. La rencontre s'est tenue une heure avant l'attentat et M. Swan n'était plus sur place quand l'explosion a eu lieu, selon le bureau de l'ONU en Somalie. Les Shebab ont mené plusieurs attaques d'envergure depuis le début du mois. Le 13 juillet, ils ont fait exploser un véhicule, faisant au moins 26 morts et 56 blessés. Lundi, au moins 17 personnes ont été tuées et 28 blessées dans l'explosion d'un autre véhicule piégé près d'un point de contrôle situé sur la route d'accès à l'aéroport de Mogadiscio.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, l'ancien procureur spécial Robert Mueller a dit hier au Congrès que son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 n'a pas disculpé le président Donald Trump des soupçons d'entrave à la justice. M. Trump a toujours soutenu le contraire, disant qu'il avait été exonéré par le rapport de M. Mueller. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Robert Mueller a expliqué qu'une politique du ministère de la Justice interdit l'inculpation d'un président en exercice. C'est pourquoi, a-t-il dit, je cite, « Dans nos conclusions, nous avons décidé que nous ne dirions pas si le président avait commis un délit. C'était notre décision et ça le reste. » Fin de citation. Mais M. Mueller a affirmé en réponse à une question que le président pourrait être inculpé une fois qu'il aurait quitté la Maison-Blanche. Il s'est cependant refusé à sortir du cadre de son rapport, répondant par des oui, non ou correct, renvoyant sans cesse à ce document. En réaction, le président Trump a dit que M. Mueller avait livré l'une des pires performances de l'histoire du pays et n'avait rien apporté pour étayer ce canular ridicule, cette chasse aux sorcières. M. Mueller a fait valoir que son enquête n'était ni une chasse aux sorcières, ni un canular.
Nous reviendrons sur le témoignage de M. Mueller en seconde partie de cette édition.
La Corée du Sud a annoncé que Pyongyang avait tiré ce jeudi 2 missiles qui se sont abattus dans la mer de l'Est, aussi appelée mer du Japon. Selon l'AFP, Séoul et Washington précisent qu'il s'agissait d'engins de courte portée. Initialement, Séoul avait fait état de tirs de projectiles non identifiés. Pyongyang avait prévenu le 17 juillet que des exercices militaires imminents, américano-sud-coréens, pourraient avoir des répercussions sur la reprise annoncée de ses pourparlers avec les États-Unis, laissant entendre que la Corée du Nord pourrait revoir son moratoire sur ses essais balistiques et nucléaires.
En Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre Boris Johnson s'est entouré hier d'eurosceptique pur et dur dans son tout nouveau gouvernement, avec la promesse de quitter l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. L'ancien banquier Sajid Javid, fils d'immigrés pakistanais, a été nommé ministre des Finances, un poste stratégique dans le contexte du Brexit. Il a été remplacé à l'intérieur par Priti Patel, 47 ans, dont les parents sont d'origine indienne. Un autre eurosceptique convaincu, Dominique Raab, 45 ans, a été nommé à la tête de la diplomatie britannique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Total annonce un accord pour fournir du gaz naturel liquéfié au Bénin et développer ce marché dans ce pays. L'accord, signé avec le gouvernement et la Société béninoise d'énergie électrique, vise d'abord à développer un terminal flottant d'importation de ce gaz. Total fournira jusqu'à 0,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié qui sera regazéifié pour une durée de 15 ans à compter de 2021. Ce projet permettra au Bénin d'approvisionner ses centrales comme la nouvelle centrale de 127 MW à Maria Glita à des conditions avantageuses. La Société pétrolière nationale nigériane NNPC annonce avoir suspendu depuis 3 mois le remboursement de ses paiements en espèces à Eni dans sa part des coûts d'exploitation de leur co-entreprise. Ce non-paiement est délibéré et vise à garantir que les problèmes entourant son accord avec Eni soient résolus d'ici la fin de la semaine. Par ailleurs, la NNPC n'envisage pas de renouveler certaines licences d'actifs d'Eni qui ont expiré car le gouvernement nigérian souhaite que la société d'État prenne le relais de certaines activités pétrolières. Pour terminer, le gouvernement malien a décidé de régler une partie de la facture de la dette intérieure qui traîne depuis l'année dernière, écrit l'agence Ecofin. L'apurement, qui a démarré la semaine dernière avec 103 milliards de francs CFA, permettra de payer tous les arriérés de 2018. Selon Bamako, cette mesure contribuera à desserrer les taux sur le secteur privé afin de l'accompagner dans la dynamique de croissance.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Tennis pour commencer, bientôt une académie au Bénin.
Oui, en visite au Bénin, le vice-président de la Fédération française de tennis, Daniel Lachosse, s'est exprimé sur le projet de construction de l'Académie francophone de tennis dans la commune de Ouida. C'était en présence des responsables béninois de la discipline et de notre correspondant sur place, Élisée Mpatine.
Pensée pour être construite à Avlékété, un village de pêcheurs, cette académie d'excellence, selon le vice-président de la Fédération française de tennis, permettra l'entraînement des jeunes élites francophones, la formation des cadres dont les clubs auront besoin pour se développer et enfin avoir des clubs labels. Daniel Chausse.
C'est un projet béninois, mais c'est un projet qui va bien au-delà du Bénin, puisqu'il est porté d'abord et avant tout par le Bénin, mais il est aussi porté par, finalement, aujourd'hui, près d'une quarantaine de fédérations de tennis francophones.
Pour le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, ce projet était un vieux rêve et le voir se concrétiser est une bonne chose pour le Bénin et toute l'Afrique francophone. Et puis, après avoir exprimé sa joie, Oswald Omeki, ministre des Sports, a rassuré que le gouvernement béninois mettra les moyens nécessaires pour la construction de ce joyau dans la zone de la Rouge des Pêches pour le bon de tous les francophones du monde. Cotonou, Élisée Rumpati, VO Africa.
Mondial de basket féminin des moins de 19 ans, le Mali écarte la Lettonie.
Le Mali a dominé la Lettonie 67-34 lors des 16e de finale du tournoi qui se déroule en Thaïlande. Sika Kone s'est bien illustré du côté malien avec 19 points et 22 rebonds. Côté Lettonie, Mara Mote avec 7 points et 11 rebonds a été la joueuse la plus en vue. Pour sa part, le Mozambique a largement été dominé par la Chine, 28-71.
En football, l'ancien patron du football libérien est banni par la FIFA.
Moussa Hassan Bilitti a été banni pour une période de 10 ans de toute activité liée au football pour des faits de corruption, dont le détournement de fonds destinés à la campagne de sensibilisation au virus Ebola. L'actuel membre du comité exécutif de la CAF a aussi été condamné à une amende de 455 000 euros. La FIFA reproche à Bilitti, je cite, « le détournement des fonds octroyés dans le cadre de la campagne 11 contre Ebola, lancée par l'instance mondiale. Cette campagne, qui a vu des stades du foot promouvoir les mesures de sensibilisation à Ebola, a été initiée en novembre 2014. Les juges de la FIFA ont déclaré Bilitti coupable d'avoir détourné des fonds vers des entreprises contrôlées par lui ou sa famille.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller a donc finalement témoigné hier au Congrès devant la commission judiciaire et aussi devant celle du renseignement de la Chambre des représentants. Il a assuré que l'enquête russe qu'il a dirigée pendant près de 2 ans a été menée de manière équitable et indépendante. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint ici à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, Herman Cohen.
À mon avis, il n'y avait pas de surprise. Il est très prudent, le procureur. Il a dit tout ce que je peux dire, j'ai déjà fait dans mon rapport. Et après chaque question, il dit la réponse, c'est dans mon rapport. Ce qui est important, c'est que la plupart des Américains n'ont pas lu le rapport de 400 pages. Donc, pour la première fois, c'est en public et des millions de gens regardent la télé et ils ont eu des renseignements directs du procureur à la télévision. Donc, pour la première fois, la grande population apprend ce qui s'est passé avec l'ingérence russe dans nos élections.
Pensez-vous que son témoignage enfonce le président Donald Trump ou affaiblit l'argument des démocrates qui cherchent à entamer le processus de sa destitution?
Oh, je crois que ça renforce les démocrates plutôt. Parce que ce qu'il a dit là dans le rapport, c'est que la campagne de Trump a essayé d'empêcher l'enquête. Donc, il a reçu l'ordre de faire une enquête sur l'ingérence russe et la campagne du président Trump, ou le candidat Trump, a essayé de bloquer, d'empêcher. Et donc, ça, c'est très clair. Et dans la justice américaine, faire ça, c'est un crime. Mais il ne pouvait pas inculper un président en exercice.
Mais on a vu Mueller plutôt hésitant, pas éloquent pour défendre, soutenir le rapport.
Il a tout à fait défendu le rapport. Il y avait des députés républicains qui ont voulu montrer qu'il y avait des contradictions dans le rapport. Mais je crois qu'il s'est bien défendu, que le rapport est bien basé sur les faits et sur les témoignages des gens qui étaient au courant. Donc je crois que le rapport est toujours valable.
On a plutôt vu une bataille entre démocrates et républicains qui a tourné à une joute politique.
Oui, c'est vrai. Les démocrates ont voulu aider leur campagne pour la prochaine élection en 2020 parce qu'ils savent que président Trump va être candidat encore une fois. Ils ont voulu faire du mal au président Trump, tandis que les républicains ont voulu faire du mal aux démocrates. Ils ont dit pourquoi le procureur n'a pas fait une enquête sur les relations entre les démocrates et les étrangers. Il y avait des espions anglais, etc. Donc c'était très typique, une bataille politique entre les deux parties.
Et qui en sort gagnant, qui en sort perdant?
Oh, je crois que c'est match nul, quoi. C'est match nul. Mais ce qui compte, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant le grand public est au courant de ce qui est dans le rapport. Et je crois que ça ne peut que faire du tort au président Trump. Il sera candidat, mais ce ne sera pas la plus importante chose.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, chargé des affaires africaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
« En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui que s'achève la campagne électorale sur les 7 postes du bureau définitif du Sénat. 2 candidats sont restés en lice pour la présidence de l'institution, Alexis Tambwe Mwamba du FCC et Modeste Bahati Lukwebo, un rebelle de la même famille politique qui a été exclu. Quelle analyse peut-on faire avant cette élection prévue le 27 juillet? Eddie Sango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien indépendant La Prospérité, Marcel Ngoyi.
En termes de supériorité numérique, on peut considérer qu'a priori, c'est M. Alexis Tambwe Mwamba qui pourrait l'emporter. Mais comme en politique, rien n'est acquis d'avance et que chaque sénateur doit exercer son libre arbitre entre les candidats, c'est possible en ce moment-là qu'on puisse nuancer cette analyse en offrant à chaque sénateur la possibilité de se définir par rapport à l'avenir. Chacun d'eux a présenté un programme, chacun d'eux a un projet, chacun d'eux a une vision en ce qui concerne la gestion du Sénat, les votes de loi et consorts. Alors, chaque sénateur, parce que le vote est à bulletin secret, donc c'est possible que chaque sénateur se détermine. On peut considérer que la montée de l'autre candidat, qui est aussi un ancien de l'autre côté, relève d'un miracle si jamais il y arrivait, parce que renverser les tendances, ça doit être vraiment un grand coup si jamais lui Bahati l'emportait.
Vous parlez de M. Modeste Bahati qui a misé plutôt sur la corde sensible en lançant un appel et en brandissant les côtés moraux, la bonne gestion et beaucoup d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut l'aider dans ce sens?
Ça devient aussi un problème d'intérêt politique immédiat. Si le FCC avait offert à Bahati la possibilité d'être le seul candidat du FCC, Bahati ne serait pas en train de faire le gros dos ou en train de se développer, de prendre l'autonomie comme ça se fait aujourd'hui. Donc, c'est un problème de poste. Ça dépend de la façon dont chacun va négocier. Mais, tel que ça se présente a priori, ce n'est pas facile de bousculer les tendances parce qu'il y a l'implication et la mainmise assez visible de l'ex-président de la République qui visiblement, s'implique pour que son poulain, que son candidat préféré, puisse l'emporter.
À la législature passée, il y a eu un miracle comme ça avec Léon Kengo Wadundo, qui était un outsider, mais qui a été élu.
En son temps, l'ancien président était encore en fonction. Et à l'époque, il avait peut-être minimisé l'enjeu. Mais tel que ça se présente aujourd'hui, il a pris ce dossier à mettre depuis un peu plus longtemps. Je dis qu'il faut que le même scénario puisse se répéter.
Comment analysez-vous le désistement du troisième candidat? Parce qu'il y en avait 3 au poste du président du Sénat.
Oui, bon, le troisième candidat a choisi de désister pour des raisons qui sont propres, mais il a expliqué qu'il déversait ce qu'il pouvait avoir encore comme aura du côté d'Alexis Tambwe Mwamba. Bon, c'est un problème de stratégie, un problème de positionnement, c'est possible, mais là, il joue sa propre carte. Hein.
On a vu une situation assez similaire dans les Sankourou pour l'élection du gouverneur ou l'assemblée provinciale et majoritairement du FCC, mais un indépendant qui a été élu.
Non, il n'y a pas de similitude parce que le cas de Sankourou a commencé par être un cas judiciaire et il y a des candidatures comme celle de Lambert Mende, quelqu'un qui a été pendant longtemps porte-parole du gouvernement et que c'est possible que le vote soit un vote sanction. Les préparatifs qui ont été mis en mouvement démontrent, si besoin en était encore, que l'ancien président il tient comme à la prunelle de ses yeux. Il pourrait peut-être même lui-même être dans la salle ou alors il se le dira tout à partir de son sujet de Sénakati.
Marcel Ngoyi, l'éditeur du quotidien indépendant La Prospérité.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Cameroun, plusieurs opposants du MRC détenus à la prison centrale de Yaoundé ont été, selon leurs avocats, brutalement enlevés pour une destination inconnue après la mutinerie de lundi soir. Certains se trouveraient au secrétariat d'État à la Défense. Ils protestaient avec des séparatistes anglophones contre leurs conditions de détention. Le gouvernement a annoncé l'interpellation de 117 détenus suite à des pillages et saccages du pénitencier. Dans cette région, des centaines de détenus attendent depuis des mois d'être déférés devant un juge. Nathalie Barge a joint Maximilienne Ngombe, directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
La situation des prisonniers politiques au Cameroun nous préoccupe. Tout le monde a vu hier à Mondo Visio qu'un des prisonniers politiques a été baladé pratiquement en nuit alors qu'il y avait une mutinerie. Et ça, ce ne sont pas des choses qui nous rassurent au moment où nous réitérons que les prisonniers politiques, il faudrait purement et simplement les libérer. C'est depuis l'adoption de la loi antiterroriste depuis 2014 que la situation au Cameroun est devenue assez difficile pour tous ceux qui sont activistes, défenseurs des droits de l'homme ou bien membres des partis politiques. Le Cameroun compte aujourd'hui, dans ses geôles, au moins 1000 prisonniers politiques, de par toutes les crises qui s'en sont suivies.
Alors en ce qui concerne les militants du MRC qui ont donc été interpellés hier, qui manifestaient dans la prison centrale de Yaoundé, est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur leur situation ?
C'est un flou orchestré et qu'on ne peut pas, dans une situation où hier on a arrêté tout le monde en leur impliquant, n'est-ce pas, les mêmes faits, et aujourd'hui on trouve certains et on ne trouve pas les autres. Donc une fois encore, il faudrait que tous ceux qui ont été arrêtés dans ce cadre hier, un, qu'on nous dise là où ils sont, qu'est-ce qu'on leur reproche, et en même temps qu'on nous dise comment ça se fait que pour quelque chose qui a commencé par des revendications normales, ça dégénère et puis il y a des boucs émissaires qu'on va arrêter. Le mouvement a commencé juste avec les activistes de la crise anglophone qui ont demandé que ça fait 2 ans ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils n'ont jamais vu un juge et ils demandent de sortir. On ne peut pas faire le distinguo entre les activistes et les grands bandits qui sont d'ailleurs là-dedans. Chacun a essayé de profiter au maximum. C'est assez grave.
Quelle est la durée légale de détention provisoire au Cameroun ?
48 heures renouvelables 2 fois.
Quant aux conditions de détention dans certaines prisons au Cameroun, qu'est-ce que vous constatez ?
Les prisons du Cameroun ont été construites pendant la colonisation. Donc pour une prison, par exemple, de 800 personnes à Koundingui, on trouve là aujourd'hui 4000. Et dans les 4000, il y a au moins 3000 qui sont des prévenus, c'est-à-dire qui sont présumés innocents. Pareil, la prison de Douala, ça devait prendre 600 personnes. On a aujourd'hui dans les 3500. Toutes les prisons du Cameroun sont des prisons avec des infrastructures vétustes. Vous n'avez pas de séparation entre les grands brigands, entre les mineurs qui ont peut-être seulement volé parce qu'ils avaient faim, les femmes. La corruption, tout la drogue qui rentre, quand vous sortez de là, vous avez un malaise. Parce qu'il y a des gens qui dorment debout. Et si vous voulez dormir sur le mur, vous payez.
La juriste camerounaise Maximilienne Ngombe, directrice du REDAC et membre de Frontline Defenders, jointe hier à Yaoundé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Visite au Gabon à l'Institut gabonais d'appui au développement qui abrite la 2e édition des vacances agricoles. Il s'agit d'une initiative du gouvernement visant à initier plus de 500 jeunes au métier de la terre. Ils en auront pour 2 mois d'initiation. Les précisions dans ce reportage d'Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Le jardin potager de l'Institut gabonais d'appui au développement accueille du beau monde. Depuis une semaine, quelques dizaines de jeunes font l'apprentissage de l'agriculture urbaine dans ses différentes étapes. Quelques vacanciers sur le site témoignent.
On enlève les mauvaises herbes pour que la plante pousse bien et on appelle ça le sarclage.
Il y a les petites graines qui passent d'abord par la pépinière parce qu'ils sont encore fragiles et la température et le rayonnement solaire et parce que à cause des fortes pluies. Et il y a ceux qui passent, qui sont sémis directement parce qu'ils ont les grosses graines.
Ils sont ainsi déployés à travers plusieurs projets agricoles. Libreville reçoit plus de la moitié de ce contingent de 500 élèves pour une formation gratuite. Michel Assoumo, formateur à l'IGAD.
Nous avons mis à disposition nos sites et en dehors des sites, nous avons mis à leur disposition des techniciens qui accompagnent les techniciens du ministère de l'Agriculture dans leur programme de vacances agricoles. L'objectif avoué, c'est de susciter des vocations auprès des enfants. Donc on suppose qu'en prenant le temps d'expliquer un peu ce que c'est que le métier de l'agriculture, parce que malheureusement, dans notre culture, l'agriculture, c'est un peu le parent pauvre. Celui qui se lance dans l'agriculture est un peu catalogué par les familles comme étant quelqu'un qui a raté sa vie. Donc on essaie effectivement de gommer ces clichés-là pour leur faire comprendre que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui peut très bien employer un médecin dans son exploitation, peut employer un ingénieur dans son exploitation. Donc le plus important, c'est de mettre en place une technique agricole qui permette effectivement de développer sa structure et de se faire de l'argent.
La formation des vacanciers est exclusivement pratique, 3 jours sur 7. Chimène Porolo, contrôleur d'agriculture, coordonne les différentes activités des enfants dans les jardins de l'IGAD.
Les enfants sont en train de sacrer et d'autres sont en train de préparer les planches pour leur permettre un peu de revoir ce qu'on attend par les cultures maraîchères et comment ça se passe en général. Voilà, donc le retour à la terre, il faudrait bien que ces enfants-là puissent connaître un peu ce qu'on attend par retour à la terre et quelles sont les spéculations que l'on utilise pour permettre aux gens, n'est-ce pas, dans les cultures maraîchères, de bien pouvoir alimenter la population.
Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.